France Culture.
Qui sont présentés ce midi par Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'Iran, une nouvelle fois pilonné ces dernières heures par l'armée israélienne. Des dépôts pétroliers ont été visés. À Téhéran, les Iraniens appelés à se calfeutrer, tandis que les autorités religieuses ont désigné un nouveau guide suprême ce matin pour succéder à Ali Khamenei. Nous irons au Liban où les frappes israéliennes ont fait au moins 16 morts et où la situation humanitaire se détériore. En Irak, où les militants kurdes iraniens ont été visés par Téhéran, qui veut anéantir toute tentative d'officide et puis enfin d'offensive, pardonnez-moi, et puis enfin nous parlerons d'une constante, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Notre invitée est Rebecca Amselem, économiste et fondatrice des Glorieuses. En pleine guerre, et alors que les frappes en Iran se poursuivent, le nouveau guide suprême iranien a donc été désigné. Le successeur de l'ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février lors du premier jour de l'offensive américano-israélienne contre la République islamique, a donc été choisi par l'Assemblée des experts, l'organe chargé d'élire le haut dirigeant. Bonjour Flore Catala.
Bonjour.
Son nom n'a toutefois pas été encore dévoilé.
Oui, aucun nom prononcé pour l'heure, mais il y a eu ce matin cette annonce faite en vidéo par l'un des membres de l'Assemblée des experts iraniens, l'ayatollah Mirbagheri. Nous nous sommes penchés sur la question, dit-il. Une opinion ferme et tranchée, reflétant la position majeure, a été formulée. Voilà pour la traduction en clair. Une majorité s'est dessinée autour d'un nom, reste à savoir lequel, celui qui circule depuis quelques jours. C'est Mojtaba Khamenei, l'un des fils du guide suprême assassiné. Nous avons travaillé avec précision et soin pour que le nom ne soit pas contesté, explique dans son discours l'ayatollah Mirbagheri, parce que Mojtaba Khamenei divise l'opinion dans le pays entre ceux qui sont opposés à la ligne dure qu'il promeut, la même que celle de son père, alors qu'une autre frange de la population la plus religieuse le soutient. Les experts iraniens donc temporisent avant de confirmer s'il s'agit de Mojtaba Khamenei ou d'un autre, aussi pour des questions de sécurité, sachant qu'Israël avait annoncé que le nouveau guide suprême, une fois désigné, deviendrait une cible à abattre.
Flore Catala, rédaction internationale de Radio France, une désignation qui intervient donc sous les bombes. La République islamique a été pilonnée la nuit dernière et ce matin par l'armée israélienne. Parmi les cibles, les infrastructures pétrolières iraniennes, 4 dépôts ont été touchés, ainsi qu'un site logistique près de Téhéran, faisant au moins 4 morts, d'après les autorités. Les habitants de la capitale et de ses environs, appelés à rester cloîtrés chez eux en raison des risques sanitaires. L'Iran, dont les gardiens de la révolution, se disent prêts à 6 mois de guerre à répliquer en envoyant missiles et drones vers les pays du Golfe, dont le Koweït et Bahreïn, mais aussi vers une base aérienne de la Jordanie et vers Israël, où les sirènes d'alerte ont une nouvelle fois retenti ce matin. L'armée israélienne a quant à elle frappé un hôtel en plein centre de Beyrouth la nuit dernière, faisant au moins 4 morts, affirmant avoir visé des chefs des gardiens de la révolution iraniens présents dans la capitale libanaise. De nouvelles frappes ont également eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth contre des infrastructures du Hezbollah, faisant au moins 12 morts. Près de 400 personnes ont été tuées en 9 jours, d'après le dernier bilan du gouvernement libanais. Alors face à ces bombardements, eh bien les Libanais sont contraints de fuir. Au moins 450 000 personnes ont été déplacées, d'après les autorités. Des autorités qui ont bien du mal à faire face à cette crise humanitaire. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Vous êtes rendu avec Martin Troidec sur le port de Beyrouth, où d'anciens abattoirs ont été transformés pour tenter de faire face aux besoins des Libanais.
Il a d'ailleurs fallu enlever les crocs de boucher pour sécuriser cet endroit. Il s'agit d'une série de hangars équipés de cloisons en placo bleu. Ils délimitent les chambres, il y en a 200 au total, avec un long couloir, pour l'instant plongé dans le noir, puisque l'électricité reste rationnée au Liban. On compte un peu moins de 1000 personnes. Il y a pas mal d'enfants qui jouent au ballon sur le parking. On voit des anciens, des handicapés et une femme enceinte qui est partie tout à l'heure à l'hôpital pour accoucher. Ils viennent tous du sud du pays ou des secteurs chiites de la capitale qui sont visés par les bombardements. Il s'agit de personnes démunies dont certains n'avaient jamais quitté leur village avant cette guerre. Ce centre d'hébergement date du dernier conflit en 2024. Il a ouvert lundi à 6h du matin, quelques heures après les premières frappes. Il matérialise le dynamisme femmes de la société civile libanaise. Il est porté par une association non confessionnelle. Elle s'appelle Offre Joie. Elle fonctionne avec des bénévoles. Et dans cette nouvelle crise, elle a le sentiment d'être un peu seule. Le soutien international de 2024 est bien plus lent à se mettre en place ici, cette fois.
Étienne Monin, envoyé spécial de France Culture au Liban avec les moyens techniques de Martin Troidec. Quant à une possible offensive des Kurdes, qui représentent 10% de la population en Iran, eh bien Donald Trump fait volte-face. Après s'être dit favorable à leur soulèvement contre le régime iranien, le président américain refuse finalement qu'ils y aillent pour ne pas rendre cette guerre plus compliquée qu'elle ne l'est déjà, a-t-il justifié à la presse. Une possible offensive que l'Iran tente d'écraser. Plusieurs frappes ont ainsi visé des militants kurdes iraniens présents dans la région autonome du Kurdistan en Irak, notamment à Erbil, sa capitale, où vous vous trouvez, Timur Özturk, bonjour.
Bonjour Julie.
Et la ville est bombardée quotidiennement par l'Iran depuis le début de la guerre.
Oui, la nuit dernière, nous avons pu entendre plusieurs fortes explosions dans le ciel d'Erbil. Depuis une semaine, la défense antiaérienne de la ville intercepte la plupart des drones et missiles qui visent la capitale du Kurdistan irakien, où se trouve une base américaine un peu en dehors de la ville, dans l'enceinte de l'aéroport d'Erbil. C'est la principale cible de ces frappes. Hier, en début de soirée, une colonne de fumée s'élevait au-dessus de ce secteur. Un agent de sécurité de l'aéroport a été tué. C'est la première victime de ces bombardements à Erbil. Des débris de drones tombent à chaque interception sur les quartiers proches de l'aéroport. Un hôtel et une église y ont été endommagés. Les écoles et les universités sont fermées dans la ville et les liaisons aériennes toujours suspendues.
Et Timur, ce sont aussi des militants kurdes iraniens exilés en Irak qui sont visés par Téhéran.
Oui, car depuis des décennies, des Kurdes originaires d'Iran ont trouvé refuge ici, en Irak. Ils ont traversé la frontière montagneuse pour fuir le régime et ils ont continué à militer en exil, organisé au sein de plusieurs partis politiques qui disposent ici de camps d'entraînement de plusieurs milliers de combattants, pour certains prêts à traverser cette frontière dans l'autre sens, rentrer en Iran, se battre contre le régime et prendre le contrôle des régions kurdes. La plupart des partis kurdes iraniens se sont rassemblés au sein d'une alliance, d'une coalition pour se coordonner quelques jours à peine avant le début des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran. C'est sur cette option kurde que misait Donald Trump il y a quelques jours avant de se raviser hier soir.
Timur Özturk avec Alexandra Bergel à Erbil. Face à cette situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour, bien la France conseille à ses ressortissants de quitter l'Irak et de se signaler avant de partir aux autorités diplomatiques, prévient le Quai d'Orsay ce matin. J'ajoute enfin qu'Emmanuel Macron se rendra demain à Chypre pour témoigner de la solidarité de la France avec cet État de l'Union européenne, Chypre frappé la semaine dernière par des drones et des missiles. Des dizaines de milliers de personnes s'apprêtent à manifester partout en France pour défendre les droits des femmes, des droits menacés par la montée du conservatisme. 150 rassemblements sont prévus partout dans le pays à l'appel d'une centaine d'organisations, associations féministes et syndicats. À Paris, le cortège partira à 14h de la place Stalingrad. Et les revendications sont multiples. Violences sexistes et sexuelles en augmentation, tout comme les menaces masculinistes, recul des droits, manque de moyens, fermeture de structures, de proximité. Bref, le patriarcat est toujours bel et bien là. Quant à l'égalité salariale, on n'y est toujours pas. Les femmes sont toujours payées 22% de moins que les hommes en moyenne dans le secteur privé, d'après les derniers chiffres de l'INSEE en 2024. Temps partiel, métier moins rémunérateur. Les raisons sont structurelles, mais pas uniquement. Et plus les rémunérations sont élevées, plus les écarts de salaire sont importants. Bonjour Rebecca Amselem.
Bonjour.
Vous êtes docteur en économie, fondatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses. Alors en 2025, par exemple, les femmes cadres gagnent toujours 16% de moins que les hommes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette différence salariale, eh bien, elle a des conséquences en chaîne sur la vie des femmes.
Absolument. En fait, ce qu'on se rend compte, notamment grâce aux travaux de la prix Nobel d'économie Claudia Goldin, c'est que au début d'une carrière professionnelle, au sein de chaque secteur, il n'y a pas tellement d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. S'il existe des écarts de rémunération, c'est plutôt entre les secteurs, et c'est ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle, le fait que les femmes sont plus nombreuses dans les métiers du soin et de l'éducation qui sont moins rémunérées dans notre société. Donc ce que je disais, c'est que au début de la carrière professionnelle, finalement, pas tant d'inégalités salariales entre les femmes et les hommes. En revanche, ce qu'elle a remarqué, c'est que cet écart commence à peu près au moment de l'âge du premier enfant, vers une trentaine d'années environ, et que cet écart non seulement ne se résorbe pas, mais il se creuse d'année en année jusqu'à la retraite. Et qu'est-ce qui se passe finalement au moment de la retraite? Eh ben, on remarque qu'en France, il y a un écart de pension qui est de l'ordre de 40%. Donc on commence à zéro en début de carrière et on termine, si je puis dire ainsi, à 40% à la fin de la carrière. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence finalement? Ça crée une insécurité pour les femmes. Et c'est ce que j'ai tendance à dire quand on parle d'égalité salariale. On se bat pas pour que les femmes aient plus d'argent à la fin du mois, pour qu'elles puissent faire plus de shopping, comme on a tendance à l'entendre parler, notamment de la part de discours masculinistes qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. On se bat pour faire en sorte que si une femme, à un moment donné, décide de partir de chez elle pour une raison X ou Y au milieu de la nuit avec ses enfants parce qu'elle est en danger, à aucun moment on souhaite que l'argent ne soit pris en compte dans ce facteur de décision. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se bat pour l'égalité salariale. C'est pour la sécurité des femmes.
Pourquoi cette égalité salariale avance toujours à pas de tortue ?
Alors, ce qu'on remarque, c'est que, et notamment grâce à une étude de la Banque mondiale qui est parue la semaine dernière, c'est que si l'écart de salaire est inscrit dans... peut-être pas tout, mais la plupart des pays dans le monde aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a uniquement 4% des femmes dans le monde qui bénéficient réellement d'infrastructures et d'un environnement qui permet vraiment d'arriver à l'égalité salariale. En France, par exemple, l'égalité salariale est obligatoire dans la loi depuis 1972. En revanche, il manque des infrastructures qui permettent d'arriver réellement à cette égalité salariale. Je prends un exemple, la question du soin et de l'éducation, par exemple. Aujourd'hui, les femmes représentent 92% du corps infirmier. Elles représentent 72% des instituteurs. Aujourd'hui, si on voudrait qu'il y ait une égalité salariale réelle, il faudrait que l'employeur, donc le premier employeur de ces métiers, par exemple, c'est l'État, propose une reclassification des métiers en fonction de leur degré de pénibilité, en fonction de leur dangerosité, en fonction du nombre d'années d'études requis pour faire en sorte de, in fine, proposer une revalorisation salariale des métiers du soin et métiers de l'éducation. Et ce qu'il faut rappeler à ce moment, c'est que les métiers du soin et de l'éducation, c'est quoi? Ce sont les sages-femmes, ce sont les infirmières, les docteurs, c'est les instituteurs, c'est tous les métiers qui, aujourd'hui, nous permettent de nous targuer d'être une société. C'est tous les éléments qui nous permettent de faire en sorte de se dire que on prend soin des uns des autres et on transmet d'une génération à une autre des valeurs. C'est aussi pour ça que c'est aussi important de revaloriser ces métiers. Dans un premier temps, c'est une question de justice sociale. Et dans un second temps, ça nous permet de continuer de faire en sorte qu'on puisse s'auto-qualifier de société.
Rebecca Amsalem, est-ce que le projet de loi dévoilé par le gouvernement vendredi, qui vise à transposer tardivement, certes, une directive européenne adoptée en 2023 pour lutter contre les inégalités de rémunération et à la hauteur, selon vous?
Alors, effectivement, il y a une directive qui a été votée en 2023 et je me permets de préciser que c'est une des dernières directives vraiment progressistes qui a été votée. Pourquoi? Parce qu'après, il y a eu des élections qui ont mis au pouvoir davantage de mouvements conservateurs un petit peu partout en Europe. Cette transposition est malheureusement pas du tout à la hauteur de la directive. Pourquoi? Parce que, certes, ça oblige à faire en sorte que les entreprises de plus de 50 salariés respectent cette transparence des salaires. En revanche, il y a très peu d'éléments prévus pour très peu de sanctions prévues pour les entreprises qui finalement ne respectent pas cette transparence de salaire. Finalement, si jamais on oblige les entreprises à respecter cette transposition européenne et à respecter cette transparence des salaires sans qu'il y ait de moyens derrière pour sanctionner les entreprises qui ne les respectent pas, finalement ça sert à rien. Donc on espère vraiment que d'ici les semaines à venir, l'État va proposer et elle va être finalement beaucoup plus engagée sur cette question-là, parce que finalement c'est bénéfique pour toute la société. Et c'est pour ça qu'une des mesures que nous on propose principalement avec les Glorieuses et le mouvement qu'on fait tous les ans pour l'égalité salariale, qui va fêter ses 10 ans cette année, c'est d'appliquer ce qu'on appelle le principe d'égaconditionnalité, c'est-à-dire de conditionner l'accès au marché public, premier marché en France, de conditionner l'accès aux subventions publiques, au respect de l'égalité salariale au sein de sa structure. Et ça, c'est une mesure qui, par définition, coûte 0 € de plus à l'État et qui permettrait d'avancer extrêmement vite sur sa question de l'égalité salariale. Les solutions, on les a. Il suffit juste de les appliquer.
Merci beaucoup, c'est entendu. Merci Rebecca Amselem, vous êtes docteure en économie, fondatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses. Merci également à Aloïse Guérin. Un mot de météo cet après-midi avec des risques de pluie de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen. Des pluies plus soutenues et orageuses sont attendues sur le Languedoc, l'Hérault, les Cévennes et la Provence. Le temps restera calme et sec au nord avec des températures très douces, 14 à 19 degrés en moyenne du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Alix Forgeot, Marie-Claire Oumabadi à la technique.